This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche pense everywhere en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.
Jason l'histoire, une émission préparée et proposée par Alain Vaquier et Gérard Viols, mise en onde et technique par Bruno Bertrand.
Two thousand years ago, the proudest boast was, Civis Romanus sum. Today, in the world of freedom, the proudest boast is, Ich bin ein Berliner.
Ainsi, donc, vous l'avez compris, poursuite de les émissions autour de la présidence de John Fitzgerald Kennedy. On a, les jours précédents, examiné un peu ce qui s'était passé avec Cuba et la baie des cochons. Eh bien, on peut dire que la présidence continue dans la difficulté puisque, comme vous en doutez par rapport aux propos entendus, on va donc aller faire un tour du côté de Berlin et notamment de la construction du mur. Alors, évidemment, le mur ne s'est pas fait ainsi parce que les Berlinois ont décidé de faire un mur pour séparer l'Allemagne et notamment la ville de Berlin. À Potsdam, après la défaite de l'Allemagne, les quatre nations alliées, États-Unis, Union soviétique, Grande-Bretagne, France, signaient l'accord divisant donc l'Allemagne en quatre zones distinctes. Au milieu de ces quatre zones, Berlin. Berlin, qui est situé dans la partie soviétique, n'est plus qu'un champ de ruines dont il faut dégager plus de 20 000 mètres cubes de décombres. La défiance commence alors à s'installer entre, on va dire, le monde communiste et le monde occidental. Les Occidentaux craignent un éventuel coup de force de Staline dans la partie est de Berlin dès 1948. Et ce sera donc le début de la guerre froide qui va commencer. Elle sera, cette guerre froide, entachée de bien des tracas pour John Fitzgerald Kennedy. Mais désormais, on a donc deux Allemagnes, deux Berlin. Au sol, on va tracer une ligne pour départager donc le bloc des pays communistes et le bloc occidental, qui deviendront Berlin-Est, Berlin-Ouest. Mais cela ne suffira pas à empêcher les Allemands de l'Est à désirer passer donc de l'autre côté. Pour l'instant, il n'y a plus qu'un seul moyen de transport qui permette de faire ceci, c'est toujours le métro. Car toutes les rues permettant le passage ont été barricadées et même les communications téléphoniques viennent d'être coupées. Pendant ce temps, aux États-Unis, eh bien, le hard bop bat son plein avec des musiciens prestigieux, parmi lesquels, évidemment, Miles Davis, Bill Evans, Jackie McLean, Hank Mobley, consort. Mais dans cette foule de kyrielles de musiciens, deux frères vont s'illustrer, la famille Adderley. Alors il y a bien sûr Cannonball, c'est vous dire la puissance de son jeu, puisqu'on l'appellera donc Cannonball. Également, Nat Adderley lui sera donc au cornet, souvent, ou à la trompette. Et puis, il y aura donc, dans cet enregistrement, notamment Wynton Kelly, le pianiste. C'est la raison pour laquelle ils vont donc enregistrer l'album African Waltz du 28 février 1961, avec notamment ce Kelly Blue, dédié à Wynton Kelly, un morceau que Wynton avait lui créé en 1959.
Thank you.
Évidemment, vous vous en doutez, rien ne se passe comme il était prévu. Et déjà dans le bloc de l'Est, la RDA, en 1953, une première révolte va éclater. Et comme à l'accoutumée, eh bien, les chars soviétiques vont venir prêter main forte pour calmer un peu tout cela. Du côté, effectivement, de l'autre côté, dans le bloc, on va dire, des pays libres et défendant de la liberté, évidemment, ça commence à créer quelques inquiétudes. Alors, les notamment ce qu'on appellera plus tard Berlin-Ouest, va se rendre compte que cette proximité n'est pas aussi évidente que cela, telle qu'elle avait pu le croire au départ. Et ils vont donc essayer de voir quels pourraient être les alliés, notamment parmi les anciens, les trois anciens alliés avec eux, qui pourraient leur permettre de sauver la face parce qu'ils craignent, malgré tout, les chars étant à proximité de cette ligne frontière tracée au sol, matérialisée par un simple trait, on peut dire, de craie, que, évidemment, les chars soviétiques pénètrent donc dans cette partie donc, maîtrisée par les blocs de l'Ouest. Et évidemment, on va créer des checkpoints. Il y aura une fameuse affaire à un checkpoint où, effectivement, ça ne se passera pas bien. Mais tout ceci viendra plus tard pour l'instant. Donc, tout le monde se regarde un peu en chaîne de faïence en se demandant comment on va pouvoir trouver une solution à cela. Parce que, évidemment, les tensions s'accroissent à la fois entre Khrouchtchev, Kennedy, bien sûr, mais également le général de Gaulle, Churchill. Et tout ceci fait que l'on craint que si les chars soviétiques commençaient à franchir la ligne, on allait se retrouver effectivement devant les prémices d'une troisième guerre mondiale. Parce que l'Allemagne a été reconstruite, elle est toute à reconstruire. Et effectivement, du côté de l'Est, disons que l'économie est encore vacillante, alors que de l'autre côté, eh bien, sans être vraiment on peut dire, le paradis, les Allemands de l'Est se rendent compte que de l'autre côté, c'est quand même bien mieux. Et puis, il faut dire quand même qu'il faut trouver une solution. Alors, à un moment donné, Khrouchtchev, lui, va donc décider qu'on va construire un mur. Alors, voyant cela, informé donc par les différents potins, et puis ils voient quand même ce qui se passe, ils ne sont pas stupides, les Allemands de l'Est, eh bien, au péril de leur vie, en une seule nuit, le 4 août 1961, 4000 personnes vont franchir cette ligne de démarcation. Pour permettre la construction du mur, vous imaginez bien que ça ne va pas pouvoir se faire comme ça, avec trois charrettes ou trois blocs de béton qu'on va poser, parce que c'est une très, très longue ligne qu'il va falloir construire. 25 000 hommes sont requis dans les pays de l'Est, et par conséquent, tous les 2 mètres, on va mettre carrément un soldat. Un soldat armé dont la mission est d'une part de protéger les ouvriers et militaires qui construisent le mur, mais aussi de tirer à vue sur tous ceux qui tentent de franchir le mur, qui n'en a encore que pratiquement à 50 cm de haut. Vous imaginez bien ce qui peut se passer, parce qu'il y a une séparation de gens qui, par exemple, prenant le métro, vont travailler à l'ouest, et puis ceux qui, n'ayant pas de travail à l'ouest, eh bien, restent à l'est. Et à partir de là, eh bien, bien des familles sont séparées.
Mon père m'a réveillé en disant « Sais-tu qu'ils ont fermé la frontière ?» C'était incompréhensible. Vous savez, c'était tellement étrange. Puis ma mère est entrée en pleurant avec ma sœur aînée et on s'est dit « Comment allons-nous ramener mon autre sœur ?» Cet été-là, ma sœur était restée chez ma tante, juste en banlieue de Berlin-Est. Nous avons donc pris la route, la S-Bahn, et c'était le chaos total. C'était terrible. Les gens pleuraient, criaient, certains avaient peur, d'autres étaient en colère. Et je me souviens que j'étais très effrayée. Je pensais que nous ne reverrions jamais ma sœur. Elle était perdue, pour ainsi dire.
Oui, donc désarroi parmi les familles séparées en deux et qui, dans bien des cas, effectivement, le père peut très bien travailler à l'ouest alors que les enfants sont, pour question de scolarité, restés à l'est. Imaginez donc le désarroi et la panique que cela provoque dans la population allemande. Alors les alliés, eux, finalement, ils se disent que ce n'est pas plus mal. Parce que ça veut dire que si la partie Est construit un mur, en aucun cas, évidemment, ils ne pourront envahir ou pénétrer dans la partie Ouest. Ce qui fait que tout le monde s'accommode de cela. Alors évidemment, on s'en accommode tout en surveillant de très près. J'aime autant vous dire que des deux côtés, les armes sont à portée de main et qu'on craint toujours un débordement d'un quelconque facétieux, on va dire, l'appelant ainsi, qui va lui, non pas la regarder l'arme, mais la prendre et tirer sur quelqu'un. Imaginez qu'un soldat de l'Ouest tire sur un soldat de l'Est et ça y est, c'est le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale. Pendant ce temps, aux États-Unis, eh bien, tout va bien pour l'instant. Kennedy, lui, il n'est pas plus alerté que cela avec ce qui se passe, à tel point qu'on pourrait dire qu'il va satisfaire du thème de Count Basie, Good Time Blues, enregistré donc au Birdland en direct le 28 juin 61. Good Time Blues, le blues où tout va bien. Thank you. la machine à swing, le Count Basie Big Band avec sa section, ses sections de cuivre rutilant, tous plus brillants les uns que les autres. À la différence près, vous l'avez constaté, c'est que chez Basie, pas beaucoup de solistes, à part lui. C'est-à-dire qu'il va donner le ton au début au piano, ensuite vont se mettre en place petit à petit les sections justement de cuivre, chacun leur tour, trompette, sax, trombone, trompette bouchée, retour avec Basie, la machine est parfaite, ça marche depuis des années comme ça, et ça va continuer jusqu'à la disparition des big bands, malheureusement. Alors, à Berlin, comme je vous ai indiqué, évidemment, les Allemands de l'Est se rendent compte qu'à l'Ouest, c'est beaucoup mieux, et comme dans toute notion de mieux vivre normal, eh bien, ce ne sont pas les ouvriers qui vont partir les premiers, malheureusement, pour l'Allemagne de l'Est. Ça va être les cerveaux. Et par conséquent, écoutez bien, 3 500 000 personnes passent à l'Ouest. Vous imaginez le désarroi et la panique que cela provoque à l'Est, où toute l'économie est pratiquement au point mort. Alors, on pourrait s'attendre un peu à une bataille rangée. Pas du tout. Tout se passe un peu à pas feutré, on va dire. Et on peut dire qu'on assiste là à une bataille de géants, une bataille royale. C'est la même que va déclencher à ce moment-là Duke Ellington qui invite Count Basie, les deux big bands réunis donc dans la même séance d'enregistrement. Petite notification importante, c'est qu'on a toujours cru que le deuxième piano était Count Basie pour le morceau qu'on va écouter. Eh bien, après vérification des musiciens présents, pas du tout. Count Basie était allé boire un pot et c'était donc Billy Strayhorn, le grand compositeur proche de Duke Ellington, qui prend le deuxième piano, pour cette bataille royale, Battle Royale, le 6 juillet 1961.
Thank you.
Duke Ellington, Cambesi. Alors évidemment, les amateurs de jazz ont reconnu dans les solistes Pon Gonzalez au sax et puis la trompette suraiguë de Reynolds de Duke Ellington. C'était donc en juillet 1961. De l'autre côté, eh bien, on va dire, toujours à Berlin, rien ne se passe comme on l'avait prévu. Mais tout ceci, évidemment, c'est une autre histoire.
This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici, on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche porte Jerry Weir en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.